toujours le même point de départ. Qui est le suivant? Qu'est-ce que ce discours nouveau? Qu'est le discours psychanalytique ou le discours analytique? Nouveau, ça veut dire qu'il n'est pas daté une fois pour toutes. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se rejoue, qui peut se rejouer dans ce lien social particulier entre deux êtres parlants. Lien social qui lie, qui se lie, qui lie celui qui parle, qui est l'analysant, et l'analyste. En sachant que finalement, quand je dis, vous voyez, le seul fait de dire celui qui parle, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est fixé dans une position. Et l'important, c'est qu'habituellement, on oublie ce qui se dit dans ce qui s'entend. Et plus que ça, on oublie qu'il y a un dire qui est au-delà. Alors, je reviens, je redémarre comme ça parce que ça ne va pas de soi, bien sûr. Le fait qu'on dise, le fait qu'il y ait un dire, les séminaires, plus particulièrement qui travaillent, sont les séminaires de Lacan, les années 72, 73, 74, correspondent à un écrit qu'il fait à ce moment-là, qui s'appelle L'étourdi, D.I.T., les tours du dit, les tours du dire, à écrire comme on veut finalement, commence par cette phrase, qu'on dise reste oublié, derrière ce qui se dit, dans ce qui s'entend. C'est qu'en introduisant le propos ce soir, j'étais un peu perturbé parce que finalement j'ai pas tout à fait dit ça. Ça montre à quel point c'est pas évident. C'est pas évident du tout, cette dimension du dire. Et puis, si le dire n'est pas le dit, il y a autre chose qui est la voix. Et le dire n'est pas la voix. Et la voix, dans ce lien social particulier, c'est pas le sonore. C'est quelque chose, ça ne veut pas dire que la voix ne puisse pas être le sonore. Hein, c'est comme ça que c'est considéré habituellement, avec des études scientifiques, études des fréquences, etc. Bon. Mais on pourrait dire que, en quelque sorte, si on est là, c'est parce que la voix de Freud est toujours là. Voilà. La voix de Lacan aussi et d'autres. Donc c'est dans cette perspective que l'on s'inscrit, et cette voix-là, c'est-à-dire strictement l'ascension de quelque chose qui va pouvoir être entendu par le bon entendeur, ce qu'on appelle le bon entendeur, l'auditeur, c'est cette ascension-là, quand elle est entendue, qui va authentifier qu'il y a la voix. C'est-à-dire que c'est par un effet... Et c'est par un effet qui n'est pas du tout la mise en scène de quelque chose. Hein, il ne suffit pas qu'il y ait une voix, notamment une voix agréable. Ça ne l'exclut pas, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, les voix agréables, d'emblée, ça fait penser aux voix des sirènes. Et du lys qui doit s'accrocher au mât pour ne pas être attiré par les voix des sirènes. C'est un mythe qui en dit quelque chose, d'une certaine façon, bien sûr. Alors, discours nouveau. Discours nouveau. Mais ce discours nouveau, comme toute nouveauté, est quelque chose Bien sûr qu'il ne va pas de soi, puisque c'est nouveau. Il n'y a pas déjà une écriture qui est déjà là. Il n'y a pas du déjà là. Ce n'est pas des connaissances au sens du déjà là. C'est quelque chose qui existe. C'est un savoir particulier où, et c'est là que intervient, à mon avis, la dimension de la voix de façon très énigmatique. Où est posée la question du jouir, du mode, pas de jouir, du mode du jouir, du, c'est-à-dire, c'est une contraction de le. Hein? C'est pas le mode de jouir, ça, on en entend parler, etc. Le mode du jouir, bon, la mode du jouir. Et chacun d'entre nous a un certain mode du jouir. Et on pourrait dire que la répétition est entretenu par ce mode du jouir. C'est pas le plaisir non plus. On peut pas ne pas, on peut pas mettre de côté dans ce mode jouissance, ce que la langue, notamment dans cette langue qu'on connaît, qui est la langue française, notre langue maternelle, ce que la langue fait entendre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a à voir avec l'ouïr. L'ouïr, et qu'il y a une ouïssance, une jouissance qui est propre à chacun. Alors, bien sûr, à partir de là, vous voyez qu'on ne peut plus rester, si on essaie de suivre ça, on ne peut plus rester dans la façon de penser habituelle, parce que la façon de penser habituelle recouvre ça. Et pourtant, on est des penseurs. Donc, comment tout ça peut s'articuler? C'est ça, la grande énigme. Comment tout ça peut fonctionner? Et puis surtout, bien sûr, d'où on vient, c'est de cette, on pourrait dire, de cette racine particulière qui est celle du langage. Et tout porte dans le discours habituel, bien sûr, à recouvrir tout ça, parce que, évidemment, on a fait au langage son destin, c'est-à-dire qu'on a dit le langage, on va l'utiliser, c'est un moyen pour communiquer. Donc les mots vont avoir un sens, et il s'agira de trouver le sens qui puisse être valable. Pour qui? Pour tout le monde. Le sens commun. Le bon sens. Le sens commun. L'objectif du développement de la pensée, c'est de trouver la façon dont il est possible que quelque chose soit enseignable. Et ce qui est enseignable, bien sûr, c'est quelque chose qui est valable pour tous. Or, le langage, qui est la condition de l'inconscient, ben c'est quelque chose qui touche au particulier à chacun. Donc ça ne va pas ensemble. Ça ne peut pas aller ensemble. Qui est enseignable habituellement, et donc qui va conduire plus ou moins à la communication, au savoir médical, psychologique, politique, etc. Et cette autre chose qui, du fait du langage, je ne peux pas beaucoup développer ça parce que c'est assez complexe, du fait d'un langage, pose, et on revient à la voix, pose au fait qu'il y a une jouissance, jouissance de l'autre, grand A, dont nous sommes radicalement et pour toujours séparés. Et pourtant, il peut arriver, voilà, il y a toujours là, c'est toujours pareil, il peut arriver que cette jouissance de l'autre, nous puissions en avoir, en quelque sorte, un témoignage, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir quelque chose qui nous soit passé de cette jouissance de l'autre. Et pourtant, nous en sommes radicalement séparés. Nous en sommes même tellement séparés que nous n'en voulons rien savoir et que nous nous sommes arrangés pour définir ce que ce serait cette puissance de l'autre. Moyennant quoi, on est complètement à côté, puisque c'est le penseur, ce qu'on appelle en termes de référence le moi, le maître, le moi, M apostrophe, E accent grave TA, la dimension de l'être. C'est la dimension de l'être qui prend en charge le fait que, après tout, finalement, l'autre, on peut tout à fait le contrôler. Tous les discours habituels, plus ou moins, enfin, au moins courants, plus que courants, tout ce qu'on peut apprendre, toutes les connaissances, hein, faire une différence entre le savoir et la connaissance, toutes les connaissances reposent sur quoi ? Ben, sur la dimension du fantasme. C'est-à-dire c'est une cogitation plus ou moins compliquée qui nous met dans un rapport au monde où le monde est notre reflet et nous sommes le reflet du monde. L'idée, c'est que nous soyons le plus possible en harmonie avec le monde. Alors là-dessus, vient de se greffer pour y parvenir tous les discours habituels, que ce soit les discours religieux, les discours politiques, même des discours psychanalytiques qui ne sont plus psychanalytiques. Puisque l'important, c'est le particulier, le propre à chacun. Alors, discours nouveau qui, et en parlant, j'essaie de ne pas tomber dans l'ornière, mais j'y tombe quand même, puisque automatiquement, j'essaie de vous transmettre quelque chose que vous puissiez suivre. Donc, on ne peut pas y échapper à ça. L'important, c'est d'une certaine façon de ne pas être sans en savoir quelque chose. Voilà. De ne pas être sans en savoir quelque chose. Vous voyez, dans cette formulation qui est déjà une formulation particulière, quelque chose qui est déjà un tissage, on pourrait dire, apparaît le fait qu'il y a, autre chose que l'espace habituel, qui est le plan, la métrique, la géométrique du plan des Grecs, le morae géométrico, qui dépasse évidemment une représentation sur un tableau, qui est le fait que quand on parle, quand on pense en termes comme ça, en opposition. Est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il est innocent? En permanence, on est là-dedans. Et il y a autre chose, et ce quelque chose-là, avec Lacan, Freud n'est pas allé là, dans cette direction-là. Et pourtant, ça se passait pas loin de chez lui, pas loin de Vienne. Ça se passe en Allemagne, avec Cantor. En mathématiques, vers les années, j'en ai déjà parlé, vers les années 1870-1880, va apparaître cette découverte de quelque chose qui échappe à ce plan du 2, qui est ce qu'on va appeler les nombres infinis, l'infinitude. Et donc, il existe un autre espace, qu'on va appeler topologique, qui s'oppose à l'espace topographique du plan, qui est le mesurable. Dès qu'on est dans le mesurable, dans la métrique, dans le mètre, dans le géomètre, dans la géométrie, même si on met du 3, les triangles, c'est toujours dans le même plan. Pour arriver mieux, c'est comme on a du mal à faire rentrer ce truc-là, ça veut dire qu'on a quelque chose en nous qui déjà nous attire sur le fait que même si on met du 3, il y a autre chose, peut-être, hein, que ça. Et si on met 3, 4 dimensions, ça ne change strictement rien, puisqu'on essaie de les penser et de se les représenter. Il y a un autre univers, on pourrait dire, un univers, et ce qui est extraordinaire, ça c'est le résultat des mathématiques, la physique aussi, on pourrait dire aussi en musique avec Schoenberg, une loi qui dépasse toutes les lois de la tonalité, c'est que si sur le plan on pouvait définir le 1 et le 2 et dire finalement que le 2 seconde le 1, c'est-à-dire que 1 plus 1 ça fait 2, et puis on peut continuer, 2 plus 1 ça fait 3, c'est-à-dire qu'on élabore ce qu'on appelle une série naturelle. Et on voit bien qu'au début de la série, c'est le 1. 1, 2, 3. Ce que va transmettre Lacan, à partir, alors là, regarde, c'est la dimension du dire dont je parlais tout à l'heure et non pas du dire. Il va trouver ça chez Freud, je vais en dire un mot. C'est que, il y a d'abord et avant tout le 3. On nous a évidemment pas appris comme ça. Et on continue à apprendre autrement. C'est pas le problème. Il y a d'abord le 3, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension, qui est le titre du séminaire, du hors d'eux. Hors d'eux, à écrire comme on veut, apostrophe ou pas, sur le 2, au niveau du 2. Et cette dimension du 3, on va appeler avec Lacan la dimension signifiante, on n'est plus dans le signifié, c'est-à-dire ce qui se comprend, ce qui se pense, ce qui se présente. On est dans le signifiant, et le signifiant, ça s'entend, et non, ça se comprend. On vire du côté du son, d'une certaine façon, d'une certaine manière, du côté du son, mais ce qui est au-delà du son, et qui sonne, d'une certaine façon, et ce que je dis là, évidemment, est tellement important que, par exemple, quand Emmanuel Kant reprend, à un certain moment de ses recherches, quelles sont les questions primordiales de la philosophie, il y en a trois. Que puis-je savoir? Que puis-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Avec ces trois-là, on peut arriver à tout faire. Eh bien, il va même voir chez Newton, qui introduit dans le développement scientifique avec son histoire de la loi de la gravitation, une rupture radicale, puisque finalement, le Satombe est égal au Saturne. Jusqu'à maintenant, on considérait que c'était important, c'était que les planètes tournaient, alors que ce soit le Soleil, la Terre, après tout, c'est toujours le même truc, ça tourne toujours. Il y a un moment, on s'est rendu compte que ce qui était important, c'est la gravitation, c'est-à-dire le fait que ça tombe. C'était la même chose, le fait que ça tourne et que ça tombe. C'est difficile à penser, cette affaire-là, évidemment. Eh bien, même si Kant est allé un peu se recycler chez Newton, en fait, il n'a pas pu sortir de la pensée, il est resté dans le discours philosophique, qui a toute sa valeur, il n'y a pas à le déprécier. Le discours philosophique, par définition, reste dans cette dimension du plan, du « deux ». C'est un discours de penseur, de pensée plus ou moins élaborée. Et alors, c'est justement ça qui... Que puis-je savoir? Eh bien, Kant peut développer toutes sortes de choses tout à fait intéressantes. Que puis-je faire? Toute la question de ce qu'il développe du côté du devoir est tout à fait intéressante. Que puis-je espérer aussi? Mais... Si nous pouvons penser autrement, c'est parce que il y a eu, entre Kant et nous, la découverte de l'inconscient, c'est-à-dire Freud. Ça ne veut pas dire que Freud ait pu aller jusque-là en pensée, parce que c'est toujours pareil, on peut arriver à penser dans l'après-coup de quelque chose. On va penser, on va dire, peut-être pas différemment, on va penser autrement. C'est-à-dire qu'on pourra toujours penser de la même façon, mais ça va nous paraître tellement plat ce plan, on va être amené à nous mettre en direction d'autre chose. Cette dimension du 3 qui est finalement ce que l'on appelle avec Lacan le réel. Le réel, c'est pas la troisième dimension à côté du symbolique et de l'imaginaire, ça il insiste dans ces années-là. Le réel, c'est ce qui les fait 3. Et que ça. C'est en ce sens-là que ça a été imaginarisé, on a ramené ça sur le plan. Le christianisme est quelque chose d'important puisqu'il pose la question qu'il y a du 3, la Trinité. Tout le christianisme repose sur la Trinité, en fait. La seule chose, c'est que ça a été recouvert parce qu'on a arrangé ça d'une certaine façon. Donc vous voyez, on revient à nouveau sur cette question-là et on a évoqué la question de la jouissance. On a évoqué la question de la pensée, on a évoqué ce qui peut se jouer, Et pour revenir aux questions de Kant, d'Emmanuel Kant, on peut se poser la question, que puis-je savoir? Alors, si on reste dans la dimension du 2 et du plan, il y a toutes les connaissances. On peut passer sa vie à se constituer en quelque sorte comme un énorme dictionnaire. C'est-à-dire que plus on en saura, mieux ça vaudra, et mieux on épatera la galerie. Ce que démontre Freud, même s'il n'a pas dit comme tel, c'est que la découverte de Freud, c'est quoi? C'est pas les histoires d'alcool, comme ça a apparu au début. Lombreuer avait la trouille parce qu'il était un médecin bien connu de Vienne, il ne fallait pas en parler de cette affaire-là. C'est pas la sexualité des histoires. C'est le fait qu'il y a quelque chose d'énigmatique dans l'être sexué. La sexualité, c'est qu'il y a un être sexué, on peut dire même sexuel, il y a une jouissance sexuelle, et c'est pas du tout ce qu'on imagine immédiatement. Parce que dès qu'on entend ce mot-là, évidemment, on fiche ça dans un sens. On retombe sur le deux. C'est-à-dire que tous les termes, finalement, hein, vous le savez, là, quand on fait un travail, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui va s'user de la définition d'un mot. Il y a quelque chose qui va s'user progressivement. On ne va même pas s'en rendre compte. Mais on va être moins pris dans un certain type de sens par rapport à un mot. Eh bien, l'énigme de tout être parlant, c'est celui de la jouissance sexuelle. Alors, j'en parle un peu, parce que je vais en parler début mai à Buenos Aires, dans un congrès. J'ai appelé ça, je ne sais pas comment. Oui, la jouissance sexuelle et la parole. Donc, il y a quelque chose qu'il importe de prendre en compte, et comme je le disais, je crois, la dernière fois ici, c'est pas de dire que les scientifiques devraient dire autre chose, notamment sur la sexualité, sur tout ce qu'ils ont découvert du côté de la reproduction, de l'ADN, etc. Non, il faut laisser aller. Le discours analytique, puisqu'on revient à lui, permet, du fait qu'il existe à la pensée, permet-il ou non de dire quelque chose de la sexualité? Au sens où, bien sûr, ce n'est pas ce qui a été vulgarisé du côté de la sexualité à partir de la psychanalyse, et surtout pas ce qui a été, notamment en 68, ces passages à l'acte comme ça, extraordinaires, faits par les jeunes, pourquoi pas, mais ça traduisait plus un malaise qu'autre chose. Si on y regarde bien, il y en a de plus près. Ce qui est étonnant, c'est que la plupart des psychanalystes n'ont rien dit du tout. Alors qu'ils auraient peut-être pu. Il n'y en a qu'un qui a dit quelque chose, c'est Lacan. En disant, écoutez, allez-y. Dans le sens que vous cherchez, c'est un maître. Voilà. Écrivez maître comme vous voulez, M-A-I-T-R-E ou M-A-P-O-S-T-O-R, mais ils cherchaient vraiment un être quelque part. Et finalement, la révolution... Qu'est-ce que c'est? C'est toujours la même chose, qu'on tourne autour du soleil ou qu'on tourne autour de la terre, c'est toujours la révolution. Il y a toujours un centre. Et on voit qu'est-ce que ça donne la révolution. Ça va mettre rapidement à la tête du pays en question un dictateur. C'est souvent comme ça que ça se termine. Tout ça pour montrer que cette dimension du deux, c'est toujours la révolution. Et si on n'est pas pris par ces espèces d'accent là, de je ne sais pas quoi, de la révolution française, qui est extraordinaire, on est d'accord. Mais c'est faux. Il faut voir ce que ça a donné au niveau des effets que ça a pu produire. Hein. Eh bien, la psychanalyse ne peut pas s'articuler à ça. Enfin, pour moi. Elle ne s'articule pas du tout au fait d'événements historiques. Elle s'articule au fait que dès qu'on parle, on parle de quelque chose dont on n'a aucune idée. Et on parle par déplacement par rapport à ce quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle le désir qui est celui de nos ascendants. Évidemment, désir, c'est pas du tout je désire. Parce que c'est encore le soleil ou la terre autour de quoi on tourne. Là, quand on sait ce qu'on désire. Hein. C'est l'objet du désir. C'est contre, c'est l'objet cause du désir. Qui est que la voix comme objet cause du désir, c'est évidemment pas ce qu'on entend au niveau du sonore. Ce qu'on entend au niveau du sonore et qui peut être plus ou moins agréable ou désagréable, comme je l'évoquais tout à l'heure du côté des sirènes, ça c'est l'objet du désir. L'objet cause du désir, c'est pas ça du tout. C'est la scansion dont j'ai parlé. C'est ça qui fonctionne dans le transfert. arriver, on en arrive un petit peu à quelque chose qui est le fait que, ce que j'ai introduit comme ça, dès qu'on pense, évidemment, dès qu'on structure, dès que la société se structure, il faut bien qu'elle se structure sur le plan, du deux. Et elle va dire, il y a d'un côté les hommes, d'un côté les femmes. Et Saint Paul, c'est ce qu'il dit. Ça fait un moment que ça existe, ça. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Bon, pourquoi pas, après tout. Ben, au moins, c'est visible. Hein. Il y a des cas intersexuels secondaires qui font que, ben, on sait ce que c'est qu'un homme et ce que c'est qu'une femme. Ben, justement, est-ce que c'est ça, un homme et une femme? Oui, au sens de, on va dire, ben, tous les discours, sauf un seul, celui du discours analytique. Il dit, c'est pas ça du tout, c'est pas ça, c'est pas si simple. Parce qu'on parle du 3, de cette dimension du 3. Qu'est-ce que dit le discours analytique? Je ne vais pas vous raconter ce que disent les autres discours, parce que je n'ai pas l'intérêt du tout. Qu'est-ce que dit le discours analytique? Qu'est-ce qui se passe dans une cure, finalement? Ça ne veut pas dire du tout que celui qui parle sur le divan, il va le penser, il le pensera peut-être après, ou pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dès que je parle, moi particulièrement, ça a été. Ça a conduit au fait de passer de la parole au chant, dès que je chante, parce que c'est plus évident. Dès que je parle, en fait, je prends en compte le fait que je ne le sais pas, c'est peut-être un peu fort dès que je prends en compte, mais je ne sais pas que je prends en compte le fait que. Il y a une part masculine et une part féminine chez tout être parlant. Tout être parlant. Il n'y a pas d'un côté les hommes et d'un côté les femmes. Voilà. Ça, c'est les caractères sexuels. Secondaires. Et Dieu sait, ça a une importance. Hein. Pour le fantasme, pour imaginer, si on était compagnie. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. Au sens du langage et de la psychanalyse. Dès que je parle, je peux mettre sous le côté homme, sous le côté femme. Mais de toute façon, j'y suis des deux côtés. C'est complètement renversant, parce que fallait quand même oser le dire, ça. Hein, des choses comme ça. C'est-à-dire que, et pour élaborer et tout ça, Lacan va justement utiliser les formules de quantique, c'est-à-dire de l'existence. Alors, je ne vais pas les développer, ce sera assez compliqué, mais j'en prends seulement une qui l'interroge de la façon suivante. Alors, c'est un peu compliqué, alors c'est le tricot, là, hein, vous connaissez ça, un petit sage. Il n'existe pas de X, c'est-à-dire de fonction, à partir de laquelle il puisse être dit qu'il n'est pas vrai que tout être homme n'est pas être femme. Pour ce que vous avez suivi, ça montre la complexité des choses. Mais ça montre bien que justement on est tissé là-dedans. On est tissé là-dedans, je ne dis pas anatomiquement, mais on n'est pas du tout là-dedans. On est tissé dans le fait que ce qui est important quand on parle, c'est comment ces deux parts qui en fait. Vous voyez bien que ces deux parts, c'est ça le 3. Elles font 3. C'est ça le thème. Comment ces deux parts qui font 3, comme le réel symbolique, sont avec le symbolique et l'imaginaire, avec le réel, non pas 3 dimensions, mais font 3. Dès que quelqu'un parle, comment est-il possible qu'il soit entendu, parce que ce n'est pas compris, qu'il puisse arriver que ce qui ne cessait pas de s'écrire, à savoir d'un côté des hommes, d'un côté des femmes, d'une certaine manière, cesse de s'écrire pour qu'advienne ce qui cesse de ne pas s'écrire. Voilà les formulations, vous avez pu reconnaître, le nécessaire, l'impossible, le contingent, le possible. Et en fait, on pourrait dire que, ça me parle beaucoup, on pourrait dire qu'en permanence, une séance, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin que ça dure, je ne sais pas combien de temps, ça pourrait durer l'éternité, pourquoi pas, peut-être ça l'éternité. c'est qu'il puisse y avoir parfois ce mouvement qu'on trouve quoi ? On trouve quand on chante un aria, par exemple. Il y a quelque chose qui part, on ne sait pas comment, qui fait que c'est porté par quoi, on va dire, par la voix. Mais c'est pas, bien sûr, c'est la voix. Et que finalement, ceux qui jouissent, ce n'est pas celui qui chante, c'est ceux qui entendent. La jouissance, elle est au niveau du récepteur. Eh bien, vous voyez que la grande énigme, la richesse de l'être parlant par rapport, eh bien, à qui ? Par rapport à ceux qui ne sont pas parlants. C'est-à-dire des êtres qui ne sont pas parlants. C'est-à-dire des animaux. Ils ont un être, bien sûr. C'est nous qui leur avons mis, qui les avons baptisés comme ça. Ils ont un être, puisqu'ils s'appellent des animaux. Ils ont un être. Hein ? Je suis, tu es, il est. Il est un animal. Bon. Donc c'est nous qui les avons affublés de ce truc-là. Ils ont un être. Nous aussi, mais ce n'est pas le même. Hein ? Eh bien, ce qu'on appelle le prédicat, enfin, c'est une chose particulière. Hein. Il est possible. Et quand ce possible advient, c'est par féminine, ce féminin. Alors, quelque chose de cette jouissance de l'autre est rendu présent, auquel on n'a pas accès. On n'a pas accès à la jouissance de l'autre. Il est radicalement autre. On en est radicalement séparé. Alors bien sûr, on peut bricoler des trucs hein, pour qu'on n'en soit pas séparé. On va dire qu'on l'a reconnu, par exemple. Ça ne se reconnaît pas du tout, puisque ça s'entend, c'est tout. Un exemple. J'ai pas mal travaillé la question du regard, mais ça renouvelle cette affaire-là. Hein. Allez lire un peu Dante et la Divine Comédie. Vous allez voir que Béatrice, à un certain moment, un simple regard, c'est-à-dire un simple battement des paupières, et ça va rendre celui qui l'aime, je cite Lacan, comme déchet exquis. Exquis ! C'est fantastique la langue. Exquis, ça veut dire quoi ? C'est ça la jouissance. Exquis. Hein ? Est-ce que c'est agréable ? Est-ce que c'est désagréable ? C'est comme les douleurs exquises, en français, quand on est dans le jargon médical, les douleurs exquises. On pourrait penser que ça va pas ensemble, mais si. C'est ça la jouissance, c'est une façon de parler de la jouissance. Mais, celui qui est réduit à ce déchet exquis, il l'est. Pourquoi ? Parce que il y a eu passage de cette jouissance de l'autre, par Béatrice, en l'occurrence en position, on va dire, de part féminine. Et le petit malin, il ne peut pas arriver à changer quoi que ce soit. Non seulement parce qu'il est déchet exquis, mais il ne peut rien changer dans ce qui se passe dans la part féminine, là, présentifiée par Béatrice. Rien du tout. Et Dante a le génie de dire que c'est Dieu qui parle par sa bouche à elle. Ben voilà un petit peu dans cette affaire-là, oui, on est loin de tous les dieux qui existent habituellement. C'est vraiment le dieu, comme dit maintenant. Le dieu, c'est celui-là, le dieu. C'est pas le dieu qu'on va béatifier, tout ce qu'on voudra. Pour mieux cacher ses exactions, finalement. Après tout, hein. Ça sert à ça aussi. Hein. Alors, vous voyez, on en arrive à cette question-là, que l'être sexué, d'un côté, il est pris par ce qu'on appelle la jouissance phallique, c'est-à-dire tout ce qu'il en est d'un espace défini, limité, organisé, compréhensible. C'est le champ de la jouissance phallique. Et puis ce champ est recouvert par ce qu'on peut appeler quelque chose d'ouvert, puisque ça porte à l'infinitude cette affaire-là, cette part féminine. Quelque chose d'ouvert, et que c'est par là qu'apparaît toute création, on va dire. Toute création est là. Alors, ce qui peut se passer entre un homme et une femme, vous voyez que c'est pas simple. Hein. Et que la découverte de la psychanalyse, ça a été quoi finalement ? Si on sort des histoires d'alcôve, hein, bien sûr, il n'y en a pas tellement, ce que raconte Freud. Hein. Freud, il patauge autour du père, l'amour du père. En permanence, ça revient, etc. Parce que que c'est son problème à lui. Hein. C'est son problème à lui, il va le découvrir un peu plus tard. Hein. Vous trouvez ça dans son auto-analyse, dans les lettres à fils. Hein. Quand il est avec les premières hystériques, il patauche complètement à l'amour du père, etc. Pourquoi pas hein. Et on peut entendre que ce qui vous affecte de certaine manière. Donc, ce qui est en jeu dans ce discours nouveau, c'est le fait qu'il y a cet autre radical, c'est-à-dire, alors on comprend un peu mieux ce que ça veut dire, ce que dit Lacan quand il dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Et que cette histoire de part masculine et part féminine, si on ne la met pas d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, si elle est propre à tout être parlant, dès qu'il parle, alors il est possible que quelque chose de nouveau advienne. Le nouveau ne peut pas advenir autour de ça. Et on pourrait dire que ce que transmet nouveau sur la sexualité, le discours analytique, c'est ce que j'ai essayé de dire. Donc que puis-je savoir ? Réponse avec Kant, c'est pas des savoirs mais des multipliés, c'est ça. Que puis-je faire ? Deuxième question, c'est essayer d'en tenir compte. C'est ici de le dire, j'essaie de le faire. Puis que puis-je espérer ? Ben pas grand-chose. Pour voir un peu ce qui se passe. Pas grand-chose. Et Lacan dit, la question n'est pas du tout là. Elle est, d'où puis-je espérer ? D'où ? On retrouve la dimension, vous voyez, de cette rencontre, de cette dimension de cette articulation de la part masculine et de la part féminine. Voilà, je vais m'arrêter là ce soir.